Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
Tout de suite, nous n'avons qu'une terre sur Divergence FM.
David Coste, bonjour.
Bonjour Dominique.
Nous avons déjà eu l'occasion de vous inviter à Nous n'avons qu'une terre. Et je rappelle que vous êtes cofondateur de The Island, un de ces premiers tiers-lieux qui ont fleuri à Montpellier. Alors, comment va The Island ?
Écoutez, The Island va très bien. J'aurais préféré vous dire que The Island n'allait pas, parce qu'on travaille sur les enjeux du monde. Sur l'entrepreneuriat social, sur les enjeux
beau.
Du monde. Sur l'environnement, l'écologie, etc. Et les sujets, aujourd'hui, sont quand même plus que d'actualité. Donc, on a beaucoup, effectivement, de sujets de travail sur ces questions-là.
Alors, effectivement, le monde ne va pas très bien actuellement, ça, c'est clair. L'écologie et les problèmes de la planète sont de plus en plus lourds à gérer.
Tout à fait, tout à fait. On est dans un monde, malheureusement, de tensions. Et certainement... dans le temps qui va venir, ces tensions vont augmenter. Donc, il y a la nécessité de recréer des espaces de créativité, de rêve.
Alors, vous êtes venu aujourd'hui pour nous parler d'un événement qui va se dérouler du 26 juin au 2 juillet, le Festival 2030. Demain s'imagine aujourd'hui. Les festivals de Montpellier et autour, ça se compte par centaines. Alors, qu'est-ce qu'il a de nouveau celui-ci ? Et quel est votre objectif ? Parce qu'en fait, on avait déjà vu avec Le Monde Nouveau une tentative de mettre en place des ateliers, des colloques, un peu ce que vous nous annoncez. Et pourtant, vous relancez quelque chose aujourd'hui. Alors, est-ce que vous allez reposer sur d'autres valeurs ?
Alors, tout à fait. On vient de parler d'un monde en tension. La question c'est qu'on s'est posé, donc on est plusieurs, c'est avec Patte Blanche, Pléiade Productions qui est un spécialiste de l'événementiel et le magazine écolo-culturel Pioche. Donc on s'est posé la question en fait de dire comment est-ce qu'on peut réinventer peut-être un festival pour qu'il soit vraiment au service de l'engagement, pour qu'on puisse vraiment créer une dynamique d'engagement collective, rapprocher les gens, rapprocher aussi les structures et les acteurs qui sont engagés sur le territoire. Et ce qu'on voit aujourd'hui à Montpellier, c'est qu'on a beaucoup... plein d'initiatives. Il y a plein de choses qui se passent absolument géniales. On a des associations, on a des réseaux pro, on a des entreprises qui bougent sur ces sujets-là. La grosse frustration, c'est que ces structures-là ne sont pas ensemble et ne travaillent pas ensemble autour de ces sujets-là. Donc, un des objectifs, c'est déjà de faire une coproduction avec tous ces lieux-là, tous ces acteurs-là, et de permettre de faire une programmation qui soit partagée. Ça, c'est le premier point. Deuxième point... qui est pour nous très important. Donc, ce festival est sous le parrainage de Rob Hopkins, qui est un des pontes des villes en transition. Et un des objectifs aussi, c'est de rêver, de re-rêver, rêver grand, penser, repenser, recroire que c'est possible, qu'on peut se remettre collectivement en mouvement pour proposer des solutions dans le monde de demain.
Alors, vous allez écrire des scénarios, vous allez essayer... justement d'imaginer un peu ou de faire imaginer ce que va être le monde de demain.
Tout à fait, tout à fait. Alors le festival est construit, c'est un festival un peu particulier parce que c'est quelque chose, un festival qui se rapprocherait d'un festival à mission. Donc c'est un festival qui va s'arrêter à un moment. Donc cette année, on a le prologue, on va poser l'intrigue, donc on va poser les constats du monde et on va travailler autour des imaginaires à 2030.
Alors donc déjà, le constat du monde, on est un petit peu au courant, parce qu'on n'arrête pas de le faire quand même. Le monde dont on ne veut plus, et tous les problèmes qu'on porte, finalement, on connaît un peu, quoi.
Bien sûr, bien sûr. On va être plutôt sur la partie des imaginaires. Donc, comment est-ce qu'on réouvre le rêve à une échéance qui est 2030, la fin des objectifs de développement durable. Donc, rêver grand, amener les gens à rêver collectivement ensemble, d'autres possibles à 2030. Ensuite, on aura 6 actes. À partir de l'année prochaine, tous les ans, Acte 1 en 2024, jusqu'à 2029 et 2030, on fera une édition de dénouement. Ça sera la fin du festival et on arrêtera à ce moment le festival.
Alors donc, vous vous inscrivez dans une temporalité longue, hein, finalement. 8 ans, c'est long. Habituellement, un festival, c'est considéré un peu comme un événementiel. Et donc là, alors comment vous envisagez justement d'utiliser, parce que c'est peut-être ça qui est le plus difficile à comprendre, comment vous envisagez de laisser votre trace et de reprendre vos thèmes d'une année sur l'autre?
Oui, bah c'est un peu l'avantage d'être sur un festival qui est temporel avec une finalité en 2030, c'est qu'on va pouvoir mesurer d'une année sur l'autre les impacts collectifs, pouvoir documenter les avancées aussi collectives. Donc les rêves qu'on a un peu, ça serait de pouvoir mobiliser des milliers de citoyens, associations, entreprises, collaborateurs d'entreprises autour d'actions, d'engagements très concrètes. Planter des arbres, repeindre la paillade, pouvoir faire des jardins nourriciers, etc., etc. Donc, il y a beaucoup d'actions collectives à imaginer. Et donc, on va travailler sur ces questions-là.
Mais cette idée de reprendre et de laisser des traces, hein, à quoi ça correspond? Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple?
Bien sûr. C'est, là, on est sur une temporalité qui est suffisamment loin, 2030, pour pouvoir rêver grand. Suffisamment proche pour pouvoir en suivre les avancées. Donc, on est sur une très bonne temporalité.
On peut prendre un exemple?
Bien sûr, on pourrait tout à fait imaginer que Montpellier en 2030 soit la ville la plus fleurie de France, ou qu'on ait des jardins partagés un peu partout, ou qu'on ait une haute mobilité avec de la solidarité aussi. Donc on peut imaginer beaucoup de choses sur Montpellier.
Vous évoquiez,
Montpellier et territoire.
Vous évoquiez par exemple de repeindre la paillade. Comment ça pourrait se faire ça?
Alors la conviction qu'on a aussi aujourd'hui, c'est qu'il faut stimuler l'engagement et que l'engagement peut être joyeux, enthousiasmant. Et qu'on n'est pas forcément obligé d'être dans la tension ou dans l'anxiété par rapport au monde. On peut aussi rendre tout ça joyeux. Donc,
vous êtes dans le positif, quoi.
On essaye de proposer une trajectoire positive aujourd'hui. Ce que nous renvoie le monde aujourd'hui est assez terrible. Donc, il faut qu'on arrive à créer des espaces de joie, d'engagement joyeux et d'autres possibilités.
Mais est-ce que ça vous rend moins résistant?
Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je crois qu'aujourd'hui, c'est une devenir aujourd'hui... engagé de manière joyeuse et enthousiasmante, à mon sens, devient un acte de militantisme fort dans le monde dans lequel on est.
Alors, tout commence donc lundi, dans 2 jours. Donc, essayez de nous dire un petit peu quels vont être les temps forts de cette semaine.
Oui, avec plaisir. Alors, on va avoir du lundi 26 au vendredi 26. On va être dans plein de lieux de Montpellier. Donc, on a à peu près 11 lieux. On a des cinémas, il y a la Panacée, l'Utopia, le Diagonal... on a 11 lieux, donc énormément de lieux, et on va avoir une programmation multiple. Donc on va avoir, je vous invite à aller sur le site 2030festival.org pour regarder la programmation complète qui continue à s'enrichir tous les jours. Et on va avoir quand même certains temps forts avec des personnalités qui vont venir. Donc on aura Camille Test qui sera là le lundi. On va avoir Francis Allais, une très belle journée sur le vivant le mercredi, avec Francis Allais et David Viala de l'Oasis Citadine. On va avoir également des cafés engagés pro le vendredi qui vont être sur Tropisme. On a des projections aussi, notamment Bigger Than Us avec Flore Vasseur le mercredi. Et après, on a une programmation qui est sur le Tropisme le week-end, qui est un moment de rassemblement. Après une semaine d'engagement et une semaine de mobilisation, on a ce grand rassemblement. Et là, on va voir plusieurs choses, notamment des prises de parole très intéressante sur les questions du rêve de l'imaginaire Montpellier 2030. On va avoir un concert d'un artiste très engagé, Fakir. Ça, c'est le vendredi soir. Et 2 temps forts qui vont être excellents, à mon sens, où on invite tout le monde à nous rejoindre, c'est qu'on va avoir une très belle parade à vélo festive, donc avec un sound system mobile solaire, le samedi matin. Donc ça, c'est l'occasion de montrer que
tout ensemble... Attendez, qu'est-ce que ça veut dire à ça, un système solaire?
On aura un petit cargo qui s'attache derrière un vélo, qui se recharge au soleil, donc avec des batteries d'électricité. Et donc, on va avoir un DJ en live qui va mixer pendant cette parade en vélo.
D'accord.
Donc ça, c'est un très beau moment. Et le samedi après-midi, un énorme atelier sur la question avec 2030 Glorieuses qui travaille sur ces sujets. Donc un atelier géant autour des imaginaires et de la projection.
Alors justement, lundi soir, vous allez commencer par les nouveaux imaginaires. Vous y avez déjà un peu réfléchi, je suppose.
Alors, on va travailler toute la semaine sur ça. On a demandé à tous les réseaux, toutes les personnes qui organisent aussi la programmation ou qui co-organisent la programmation, de travailler sur ces questions avec leur propre réseau. Donc, les entreprises, par exemple, ou les entrepreneurs peuvent ouvrir cette réflexion de comment est-ce que mon entreprise pourra être plus engagée en 2030 et aussi servir la cité. Donc, créer cette perméabilité toujours entreprise avec la cité, les citoyens et la collectivité. Donc, on va avoir, les réseaux vont animer ces ateliers toute la semaine et ensuite, on refera le samedi un grand atelier partagé avec tout le monde.
Mais alors, vous intégrez finalement votre projet jusqu'à la fin des ODD. Donc, pourquoi avoir choisi donc ce moment où s'achèveront les ODD? Qu'est-ce que vous en pensez? Et rappelez-nous un petit peu à quoi ça sert, hein, les objectifs de développement durable.
Bien sûr, donc c'est des grandes directions qui ont été prises il y a 15 ans sur les grands enjeux du monde. Donc les enjeux du monde sont découpés en cibles et en objectifs. Hein. On peut avoir l'urbanisme, l'alimentation, la vie terrestre, etc. Et donc l'idée, c'est de pouvoir entraîner, alors d'un point de vue international, mais aussi les États, et ensuite ça décline sur les territoires, de pouvoir entraîner autour de ces questions thématiques qui sont aujourd'hui les grands enjeux du monde qu'il faut qu'on couvre. Donc 2030, symboliquement, pour nous, c'est très fort de pouvoir se projeter à cette fin des ODD, parce que certainement un grand cycle va se rouvrir après. Et pour nous, c'est aussi une temporalité. Ce qui était important, c'était de pouvoir proposer une date, encore une fois, suffisamment proche, suffisamment loin, suffisamment proche pour pouvoir se mettre en mouvement et que ça soit concret. Si on porte le rêve à 2040 ou 2050, c'est très dur. Déjà, 2050, ça commence à être dur, c'est très loin. 2030, c'est demain. Donc, on peut tout à fait se projeter dans une réalité de 2030 qui soit différente et ça nous laisse encore une fois du temps pour passer en action et faire des très belles choses sur nos territoires.
Alors, David Cos, merci. Je sais que vous aurez encore l'occasion de reparler de ce festival au micro de Divergence. Je vous souhaite donc bonne chance pour toutes vos actions. Et alors, nous avons aujourd'hui un autre invité en studio qui va nous parler donc d'un autre festival. Et on est un petit peu en train de préparer l'été. Alors, bonjour Stéphane Herbe.
Bonjour.
Donc vous êtes également préoccupé par l'écologie. Vous avez été l'un des grands organisateurs des marches climat et tout en militant dans votre ville de Lattes, puisque là vous y êtes vraiment engagé de manière politique. Vous travaillez à Metz à l'organisation du festival de Thau. Et alors finalement là on s'inscrit dans quelque chose d'un peu plus, j'ai pas envie de dire plus classique parce que vous allez sans doute nous en dire des choses, mais en tout cas qui s'inscrit dans l'histoire régionale puisque le festival de Thau est né en 1991, donc il a déjà de la bouteille.
Ça sera la 33e édition et c'est vrai qu'il est bien ancré sur le territoire de Thau. Il est à la pointe du développement durable dans le milieu de la culture et des festivals. Voilà, donc on essaye d'aller toujours plus loin dans ce qu'on peut faire, de ce qu'on peut proposer au public aussi pour être éco-responsable durant un moment festif, qu'on veut convivial, festif, familial. Donc on reste dans cette optique-là.
Alors 10 ans, finalement, ça a marqué quand même des choses.
10 ans.
Enfin, de 91 à aujourd'hui, oui.
Ça fait 33 ans.
Oui, donc, 33 ans, 33 pardon.
33 ans, ça fait pas plus que, oui, ça a marqué beaucoup de choses. Et on est ancré sur le territoire, c'est un fait. On a fait beaucoup de choses, ça a évolué dans 33 ans, mais on veut toujours aller plus loin. Voilà, enfin, l'engagement écolo de ce festival ne date pas de hier. On ne s'est pas réveillé en disant, tiens, il y a un problème climatique, on va faire des choses. Donc ça date quand même d'un bon moment. Hein. Enfin, le tri des déchets, c'est depuis 2007, par exemple. Les toilettes sèches qui sont aujourd'hui à la mode, c'est depuis 2009 qu'on les met en place sur le festival. Enfin, il y a beaucoup de choses. On met de l'eau, des fontaines à eau pour le public en libre service. Il n'y a plus zéro plastique, hein, sur le festival. On n'accepte plus de plastique, notamment de bouteilles en plastique. On offre des gourdes aux artistes. Enfin, voilà,
Alors, votre action, vous, ça a apporté sur une dimension qui va s'ancrer, elle aussi, dans la durée, puisque vous œuvrez pour une culture décarbonée. Ça veut dire quoi ?
Eh bien, on essaie de décarboner la culture. Donc, voilà. On a été sélectionné par le projet Déclic, qui est un projet national. Donc, on va avoir un bilan carbone qui va être fait de notre festival sur la période donc, de juillet, du 7 juillet au 20 juillet. Donc, on va calculer notre bilan carbone du festival. Voilà, donc,
alors, ça prend quoi en compte hein?
Ben, ça prend tout, le déplacement des publics, la consommation, l'alimentation, la consommation énergétique, l'alimentation. Ça comprend tout, on va tout calculer, tout peser, tout voilà.
Et vous êtes aidé en cela par quelqu'un,
par des experts, hein, c'est Ecodev qui va faire ça, qui est payé pour faire ça par le SMA, donc c'est le syndicat mixte de la culture. Et voilà, donc on va faire ça. On a engagé aussi...
Les municipalités, finalement, de l'étang de Thau se sont mises d'accord entre elles.
Alors, ça, c'est encore autre chose, parce qu'aujourd'hui, les municipalités, l'agglomération, l'aglopole de Sète, a mis en place un suivi avec le bureau des acclimatations pour, justement, aider les festivals à aller vers la transition écologique, vers le développement durable. Donc ça, c'est un suivi qui va se faire sur 3 années. Donc c'est la première année là, on est en plein test et on est en train de voir. Le projet Déclic, c'est encore un autre projet. Et on est encore sur un autre projet aussi de labellisation. Avant, on avait la norme ISO 20121.
Oui, alors là, vous nous avez déjà tous perdus.
Oui.
Alors donc, revenons un petit peu, revenons à nos moutons. Alors déjà, vous nous parlez de 3 bilans, en fait. Vous êtes testé sur 3 choses. Alors lesquelles?
Alors, le bilan carbone, le déplacement des publics et la labellisation, c'est général, quoi. C'est vraiment sur le développement durable dans sa grande globalité, dans son ensemble, quoi.
Bon, alors, une fois que vous allez avoir fait ces mesures, ces diagnostics, qu'est-ce que ça va apporter au festival?
Eh ben, on va pouvoir voir où c'est qu'on peut aller encore plus loin dans notre démarche écolo et voir sur quel point on peut travailler. Par exemple, cette année, on a mis en place un repas végétarien au catering. Donc repas artistes et techniciens, on va mettre une fois par jour, enfin soit le midi, soit le soir, c'est un repas végétarien et il n'y aura pas de viande. On va voir comment ça va être reçu, hein, parce que c'est vrai que les équipes techniques...
Parce que c'est vrai que les gens qui viennent à Thau, ils viennent pour manger, pour boire, pour danser.
Non, alors ça, c'est le public. Le public, de toute façon, ils auront de la viande, mais ils auront aussi une proposition de repas végétarien. Mais au catering, c'est vraiment les techniques et les artistes. Et on a décidé cette année, parce qu'on ne voulait pas cette année, c'est 2 repas végétariens, il n'y aura pas de viande, c'est terminé. La transition, il faut qu'elle se fasse doucement, il faut expliquer pourquoi, comment on le fait, tout ça. Donc cette année, on a mis 1 sur 2, donc ce qui est pas mal. On va voir le retour des techniciens, parce que les techniciens, quand même, c'est des manutentionnaires, donc ils ont besoin d'énergie. Mais on va leur montrer qu'on peut avoir de l'énergie sans viande aussi, sans produits carnés.
Bien. Alors, pour vous, un festival propre et éco-responsable, vous nous avez déjà un petit peu expliqué, c'est l'absence de plastique.
C'est éviter d'avoir un impact minimum sur la nature, sur l'environnement. Et voilà. En plus, on est en bord de lagune, au bord de l'étang de Thau, donc c'est un lieu à protéger, c'est un lieu naturel de valeur, quoi. Donc il faut vraiment faire attention à ce qu'on fait. On est vraiment sur l'étang de Thau, donc on veut être respectueux de notre environnement.
Alors, vous avez mis en place aussi ce qu'on appelle les éco-dialogues.
Tout à fait.
Alors, enfin, ce n'est pas nouveau parce que Thierry Salomon s'en occupe depuis un petit moment.
Oui,
on rappelle un peu qui est Thierry et puis qu'est-ce que sont ces éco-dialogues.
Thierry Salomon, c'est une personne, c'est un journaliste et il a travaillé aussi dans le milieu de l'énergie.
Il a beaucoup travaillé dans le milieu de l'énergie.
Il travaille encore d'ailleurs, s'il m'écoutait. Et on a mis en place, enfin, il l'a mis en place avec Monique Tessier, la présidente de l'association.
Il a été, rappelons que dans le domaine de l'énergie, il a été de ceux qui ont lancé Négawatt.
Tout à fait, oui, c'est un des fondateurs de Négawatt. Oui,
voilà.
Oui, il faut le préciser, tout à fait. Et du coup, Thierry s'occupe des éco-dialogues sur le festival. Donc les éco-dialogues, c'est quoi? Tous les ans, en fait, on met en exergue ou une thématique. Donc cette année, on a décidé que c'était l'eau. Donc on propose des conférences sur le temps du festival et aux automnales aussi, parce qu'on a des dates pendant l'automne. Donc Enfin, voilà, c'est lui qui organise, il cherche les intervenants. On a plusieurs éco-dialogues. Hein. Le premier, ça sera le 20 juin à 18h à Bouzic sur l'eau et le bassin de Thau, un équilibre, un bassin fragile. Donc voilà, il gère ça et il y a une bonne renommée. Enfin, il y a un site aussi où on peut voir tous les éco-dialogues qui ont été faits.
Ah oui, on peut revoir.
On peut revisionner, hein. Oui. Il y a
sur site, quel site alors
éco-dialogue.
Éco-dialogue,
oui. Ouais.
D'accord.
Du bassin de Thau. Donc tout est là. Et puis voilà.
Non, très bien. Alors maintenant, bon, vous allez effectivement. On parle du festival de l'étang de Thau, mais. Parlons un petit peu de l'étang de Thau quand même, ouais. Qui est... bon, alors, il est un peu connu nationalement, internationalement.
Mondialement
connu. Donc, effectivement, il y a les huîtres de Bouzic.
Il y a les huîtres, il y a les picots, il y a le vin, il y a la culture.
Il y a les eaux de Balaruc.
Les eaux de Balaruc, tout à fait, oui. Les eaux thermalisme.
Voilà. Alors, par contre, aujourd'hui, c'est un écosystème excessivement fragile et qui va être très marqué par le réchauffement climatique.
Qui a toujours été... Enfin, c'est un milieu très fragile. Et effectivement, le changement climatique va perturber cet écosystème. Déjà, on va avoir la montée des eaux. Donc, la salinisation risque de monter aussi. Donc, est-ce qu'on va pouvoir continuer à cultiver l'huître et faire la conchiculture? La submersion marine aussi, où Sète va être impactée, avec toute la lagune et la voie du chemin de fer qui longe là et qui risque d'être submergée d'ici quelques années.
Très bien. Alors, il y a actuellement, dans les propositions d'adaptation qui sont faites, on parle d'ouvrir les gros. Alors, pour l'instant, il y en a deux. Il y a celui de Sète qu'on ne peut pas ouvrir tellement.
Parce qu'il est très
urbanisé.
Oui, voilà. Urbanisé, puis oui.
Voilà. Et puis, on a celui de Marseillan. Et par contre, là, on pourrait le rouvrir complètement. Enfin, beaucoup plus, quoi.
Ouais, je pense que là, vous êtes beaucoup plus à même de répondre à ces questions techniques sur cette problématique que moi. Donc, je ne vais pas m'avancer trop. Mais oui, effectivement, il y a des travaux à faire sur cette lagune et sur ces gros, notamment à Marseille. Parce qu'à 7, ça va être impossible. Enfin, je ne vois pas comment on peut faire pour ouvrir cet espace-là. Quoi.
Oui. Alors, donc, on a une lagune, effectivement, qui aujourd'hui va nécessiter très certainement qu'on y refasse circuler l'eau si on veut garder à la fois huîtres et conchyliculture.
Oui, si on veut garder ça. Si on ne veut pas garder, bon, bah, on laissera faire la nature. Est-ce que ce n'est pas aussi une solution? Je ne sais pas. Les conchyliculteurs me désapprouveront peut-être, mais à un moment donné, il faut...
Bah, peut-être qu'on peut faire les deux.
Peut-être qu'on peut faire les deux. Après, ils font bien... Oui,
parce que regardez, sur le Mont-Saint-Michel ou sur d'autres...
Sur la côte atlantique,
la mer rentre. Et en fait, enfin, ce qu'il faut éviter absolument pour les temps de Thau, c'est qu'ils se trophisent d'une certaine manière.
Oui, tout à fait. Oui.
Voilà. Alors, vous nous avez donc donné un petit peu... Enfin, donné déjà un exemple d'éco-dialogue. Est-ce que vous pouvez nous parler maintenant un petit peu de la manière dont vous avez... peut-être associer les associations à cette dimension.
Alors, justement, ça fait plusieurs années qu'on crée le village des rencontres, en fait. On invite les associations écologiques du territoire à venir sur le site. Alors, ce qu'on leur demande, c'est de ne pas venir juste distribuer des tracts, parce que ça, tout le monde peut le faire et c'est pas très utile. Ce qu'on demande, c'est vraiment d'avoir une interaction avec le public. Donc, on va leur proposer, déjà, ils vont pouvoir faire un atelier, un moment de rencontre avec chaque association, avec le public. Et on leur demande sur leur stand de proposer un jeu ou quelque chose, mais qui soit en lien avec la thématique, bien sûr, de cette année, par exemple, l'eau. Et chaque association proposera une activité avec le public. Ça reste ludique, une sensibilisation, mais pas juste qu'ils viennent vendre leur association. Et cette année aussi, on a, comme tous les ans, SOS Méditerranée qui sera présente sur le festival. Voilà, ça nous tient à cœur de défendre cette association qui se bat pour les migrants et voilà.
Et alors, vous savez déjà un peu ce qu'ils vont faire, hein?
Alors non.
Non.
Pour l'instant, non.
Vous avez laissé toute liberté aux associations.
Non, pas de liberté, mais en fait, c'est on est en train de voir. On a déjà les associations plus ou moins qui vont venir. Mais on n'a pas encore défini complètement le rôle de chacun et chacune.
Bien. Et quand même, vous avez quand même... Est-ce qu'on peut savoir combien d'associations vous allez pouvoir
rassembler? Alors, il y aura 12 stands.
12
associations par soir, oui, c'est beaucoup. On donne une grande place. Hein. Ils viennent, c'est gratuit. On leur met à disposition le stand. On leur demande juste voilà, qu'il y ait quelque chose d'interactif avec le public. Et voilà. Oui, non, c'est important.
Et ils représentent la région, alors?
Oui, c'est des associations régionales, élargies. Voilà, après... sans doute Greenpeace, des associations nationales et internationales qui sont là, Greenpeace,
Surf
Rider, oui, ils seront là, il me semble, oui. Voilà, il y aura des associations plus locales de Metz, vraiment qui sont basées à Metz. On travaille avec le local, mais on s'ouvre aussi au niveau régional.
Bien, ben écoutez, merci Stéphane.
Merci à vous.
Et puis on vous rejoindra donc pour les réjouissances qui vont se dérouler, je le rappelle, du 7 au 23 juillet. Alors, est-ce que vous avez peut-être un lieu pour nous donner rendez-vous pour ceux qui veulent savoir un peu ce qui va se passer?
Alors, vous avez le site du festival, hein, festivaldetau.com. Vous avez toutes les informations et puis sinon, ben, je vous invite à venir... nous rejoindre durant ce festival, qui est un festival familial, écolo, mais qui reste quand même un festival de musique, de concerts, et voilà.
Oui, alors j'ai effectivement oublié de parler de musique.
Oui,
peut-être que ce serait bien d'en dire un petit mot quand même.
Oui, la musique, on travaille avec des artistes locaux, mais pas que, internationaux aussi, et ce sont souvent des artistes qui sont engagés. Cette année, on a Tiken Jafakoli, par exemple, il est très engagé. On a Warakel, c'est l'orchestra qui va venir, qui est très engagé aussi, Bigaranx, voilà. Puis on a deux autres groupes internationaux, comme Ajaté, qui vient du Japon, Sandra Nkake, Fatoumata Diawara. Voilà, on a une super programmation, avec des artistes aussi un peu plus locaux, Racine Rêvée avec Sacha Bogdanov, Maya Barou aussi, qui sera là,
en Allemagne. C'est
un festival international, voilà.
Bien, bah écoutez, merci. Donc, bien, bon courage. Hein. Au revoir à tous. Et puis la semaine prochaine, on se retrouve pour notre dernière émission de la saison.
Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
C'était Nous n'avons qu'une terre avec Dominique Martin-Ferrari sur le 93.9.